Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. En entrevue sans filtre, tout à l'heure, vers 11h30, je recevrai la visite de Guillaume Lemay-Thivierge qui va nous parler de toute son œuvre. Il fait tellement de choses, c'est époustouflant. Un horaire époustouflant. Alors, je vous invite à être à l'écoute. Je vais vous demander également si vous avez l'intention de changer quelque chose dans votre assiette cette année. On va revenir sur les grandes tendances alimentaires en 2020 au niveau de l'industrie qui vraiment s'organise, vous allez voir, pour faire en sorte que de vous guider vers telle ou telle autre allée dans votre supermarché. Et aussi, ben, vous me direz au niveau de l'assiette comme telle, si vous alliez mettre plus de protéines végétales que de viande. Bref, on va discuter de tout ça. On aura également la montée de lait de Jessica Barker, qui a beaucoup fait jaser sur les réseaux sociaux à la suite de l'émission Format familial cette semaine, où elle se plaignait du fait que les grands-parents sont plus là aujourd'hui pour garder nos enfants. Puis elle dit franchement, où êtes-vous les grands-parents quand on a besoin de vous? Alors, je pense que ça va faire pas mal de réactions parmi vous, chers amis. Mais d'entrée de jeu, il faut vraiment qu'on revienne ce matin sur la pénurie de logements dans les grandes métropoles canadiennes, mais en particulier celle qui nous préoccupe le plus, c'est Montréal, au Québec. Mais il n'y a pas qu'à Montréal où il y a un problème de logement et un faible taux d'inoccupation, un des plus bas qu'on a connu, que ça soit Sherbrooke, que ça soit Québec. Sur la rive sud aussi, sur la rive nord, les gens ont de la misère à se trouver du logement abordable. Vous avez peut-être vu cette histoire hier, ou qui fait la une également du Journal de Montréal, où on voit des familles, là, il y a une dame enceinte qui a de la misère à se trouver un logement. Bref, il y a toutes sortes d'histoires personnelles et sans doute, vous nous raconterez la vôtre également pour nous dire est-ce que vous avez pu trouver un logement abordable. Et l'autre tendance qu'on voit, c'est profiler en ce moment, c'est des gens qui ne sont plus capables de rester là où ils habitent. Ça touche beaucoup de gens qui vivent en condo. On reviendra là-dessus la semaine prochaine, d'ailleurs, puisqu'il y a tout un nouveau règlement qui touche les condos. Mais ce matin, je vais vous poser la question directement. Paul l'a un peu fait tout à l'heure. Je vais poursuivre. Donc, est-ce que vous avez de la difficulté à vous trouver un logement abordable? 514-790-9850. Pour nous le dire de l'extérieur sans frais, vous faites le 1-866-790-9850. Elle est porte-parole du FRAPRU. Véronique Laflamme est avec nous. Merci d'être là, Véronique.
Bonjour.
Hans Brouillette est directeur affaires publiques de la Corpic, qui représente les propriétaires de Logement Québec. Merci d'être là.
Bonjour.
Hans, Véronique, je commence avec vous. Est-ce qu'on peut effectivement parler officiellement d'une crise du logement au Québec et en particulier à Montréal?
Oui. Avec des taux d'inoccupation aussi bas, on parle de pénurie, mais avec la cherté des logements qui est complètement déconnectée de la réalité d'une part importante des locataires, on peut parler de crise pour tous ces ménages-là. Et on parle de près de 200 000 ménages locataires au Québec là, qui paient trop pour se loger et qui doivent finalement couper dans d'autres besoins essentiels.
Et donc, quand on parle de crise de logement, ça veut dire qu'il y a des familles qui sont à la rue en ce moment, qui sont un peu pris entre deux chaises, comme ça, qui sont chez des parents en attendant de trouver d'autres choses?
Bien, en fait, on l'a vu au 1er juillet. Souvent, c'est plus au 1er juillet qui est la date de déménagement traditionnel où on voit des ménages à la rue. Ça a été le cas cette année, près de 200 pour l'ensemble de la province. À Montréal même, on parlait d'une centaine au 1er juillet et ça a pris au moins 3 mois pour que toutes ces personnes-là soient relogées dans un logement avec un bail. À Gatineau, où la pénurie est très importante, aggravée par les inondations et les tornades, il y a une vingtaine de familles actuellement qui sont sans logis, qui sont en hébergement temporaire, donc dans des organismes communautaires et qui n'ont pas là, de toi à eux sur la tête.
Logement temporaire au Québec, ça fait réagir quand même, là, ça surprend.
Sans parler des refuges pour personnes itinérantes qui débordent parce que des personnes qui finalement même ont des revenus de travail se retrouvent en situation d'itinérance devant cette cherté du coût des logements.
Et vous, vous dites, la grande responsable, c'est la rareté des logements, mais c'est aussi l'appât ou l'espèce d'avidité des propriétaires. Qui augmente les prix, finalement.
Oui, il y avait déjà un contexte de spéculation immobilière à Montréal qui affecte de nombreux quartiers, entre autres le sud-ouest, qui est maintenant celui où la rareté est la plus importante, hein, Saint-Henri, Verdun. Mais à ça, la pénurie vient accentuer la pression sur le coût des loyers et les locataires. Donc, on voit les loyers monter en flèche. Et là, vraiment, on s'inquiète pour l'abordabilité, pour la possibilité même pour les gens de demeurer dans leur quartier. Autant à Montréal qu'à Longueuil, hein, où la situation est similaire à celle de Montréal maintenant.
On va revenir là, sur l'augmentation de ce que ça veut dire l'augmentation du loyer cette année, par exemple. Mais Anne, sur la spéculation, est-ce qu'effectivement les propriétaires abusent?
Mais non, écoutez,
regardez d'abord premièrement... Quand il y a du monde qui vit dans des logements temporaires, t'as envie de dire, voyons, on est au Québec, ça n'a pas de bon sens.
Oui, il y a beaucoup plus de logements vacants présentement qu'il y a de gens à la recherche d'un logement. Crise, absolument pas. On a eu une crise, c'est vrai, au début des années 2000, avec un demi de 1% des logements qui étaient vacants, aussi bien dire aucun. Là, on est à 1,5 à Montréal, 1,8 sur l'ensemble du Québec, donc on n'est pas là. Par contre, on voit la tendance.
Mais c'est quand même pas beaucoup, là.
Ben non, il y a pas énormément de logements, on est d'accord avec ça.
En gros, ça veut dire que sur 100 logements, il y en a 2 disponibles?
Ouais, non. Non,
ça veut dire quoi?
Vacant. Parce que disponible, faut s'entendre, il y a plein de gens qui vont ne pas renouveler leur bail au cours des prochains mois, donc ça devient des logements disponibles. Prenons l'exemple d'un jeu de chaise musicale. Si tout le monde se lève et se tasse d'une chaise, tout le monde va se rasseoir. Évidemment, si vous enlevez des chaises ou si vous rajoutez des joueurs, là, c'est différent. Et c'est ce qui se passe à chaque année. C'est un jeu de chaise musicale. Maintenant, le jeu est plus difficile si effectivement des nouvelles personnes s'ajoutent.
Mais donc, la toune, elle coûte plus cher.
Ben, écoutez, avec l'immigration, regardez, là, l'économie va bien. Beaucoup d'emplois, beaucoup de jeunes qui cherchent un logement, beaucoup d'étudiants. Et à l'autre bout, vous avez des locataires qui, normalement, rendus à certains niveaux de revenus, devraient acheter une propriété, mais les prix sont très élevés, très, très élevés, donc préfèrent demeurer dans le marché locatif. Donc, ça crée un refoulement et il faut voir maintenant comment on conserve les logements existants et comment on favorise la construction de nouveaux pour que l'offre, à moyen et long terme, puisse répondre à la demande. Il n'y a pas de crise aujourd'hui, mais il faut agir maintenant, il faut planifier ce qui va se passer.
Mais Véronique a dit qu'il y a une crise.
Ben, en fait, c'est parce que pour nous, la crise, c'est pas juste la rareté. Hein? Oui. La rareté, c'est un indice. Les chiffres qu'on voit là sont très inquiétants. C'est les plus bas taux pour le Québec en 15 ans. Pour les logements familiaux à Montréal, les plus bas taux en 20 ans. Donc, on peut après ça se chicaner sur les années, mais pour nous, c'est pas juste une question de rareté, c'est une question de cherté de ce qui est disponible. Et cette cherté-là, elle est difficile en fait, on peut rarement dire qu'elle n'est pas là quand on regarde le prix des logements affichés. Même la SCHL note hier que les logements disponibles sont 25 % plus chers au moins que le loyer moyen. Donc, les gens qui doivent déménager parce qu'ils se font reprendre leur logement, par exemple, ou qui sont victimes d'une éviction, ou qui vivent une séparation carrément, et là, sans parler des femmes victimes de violences conjugales qui sont dans une situation particulièrement dramatique, ces gens-là, finalement, les prix des logements qui sont disponibles sont beaucoup trop chers. Donc, la crise,
pour leur revenu, peut-être, mais pas par rapport au coût de la vie, au coût de construction, au coût de main-d'œuvre, au coût des matériaux. Écoutez, tout augmente.
Mais il y a des gens qui se font injecter, là, quand même.
Le revenu moyen des ménages locataires à Montréal, c'est 38 000 $. Le revenu médian de ceux qui ont des besoins impérieux de logement, selon Statistique Canada, est de 18 000 $. Et ils sont 100 000 ménages dans cette situation de vivre dans un logement de taille insuffisante, en mauvais état ou trop cher.
Mais eux, c'est du logement social qu'ils devraient avoir.
Tout à fait, ouais. Mais ce logement-là, il n'est pas disponible.
Ben oui, exactement.
Ouais,
mais il n'y en a pas. On va donner la parole, si vous voulez bien, à Alain qui nous appelle, un auditeur qui, lui, pour toutes sortes de raisons qu'il va nous expliquer à l'instant, vit maintenant dans une roulotte. Alain, bonjour.
Oui, bonjour, ça va bien?
Ça va très bien, vous-même?
Oui, ça va très, très bien. Je l'ai réglé, le problème de propriétaire.
Oui, racontez-nous ça, Alain, rapidement.
Ben moi, j'ai loué, en 5 ans, 3 fois des logements que le propriétaire, c'était supposément bien beau, bien fin, bien smart. Puis rénove l'appartement à ton goût, Alain, pas de problème, je vais payer. Puis là, ben ça montait à plusieurs milliers de dollars à un moment donné. Ça, c'est sans compter mon temps que j'ai jamais eu.
Je me suis ramassé
à la régie du logement, puis ça, puis le propriétaire, il disait qu'il avait payé rénovation, mais j'ai été au moins intelligent pour une chose. Je mettais tout sur ma carte de crédit, et quand il est arrivé le temps de faire la preuve, ben le commissaire, le régisseur, il a bien vu que c'était moi qui avais payé. Fait que là,
mais je veux savoir pourquoi vous vivez dans une roulotte, parce que ça vous a écœuré, cette histoire-là, puis vous n'êtes plus jamais propriétaire, c'est ça?
Oui, mais madame, c'est ça. C'est parce que ce qui arrive, les propriétaires aujourd'hui, ils achètent des immeubles vite, parce qu'il y en a qui sont sur le bord de faire une faillite, ils payent pas cher, ils augmentent les loyers aux locataires, ils font des belles promesses, puis là, surtout, ben ça se passe en catimini. Là, il y en a qui ont des enfants. Ils en veulent pas d'enfants, madame. Puis pourtant, ils ont déjà été des enfants. Eux autres, je me suis déjà poigné avec quelques propriétaires à entendre la discussion que madame dit, j'aimerais ça vous louer, mais malheureusement, vous avez des enfants. Tu l'as déjà été un enfant, toi, là?
Ouais.
Aujourd'hui, les enfants, c'est comme si c'était de la merde. Je regrette ça, mais moi.
Elle est où, votre roulotte, Alain?
Ben, moi, madame, je travaille dans la machinerie lourde, fait que souvent, je me déplace pour des réparations qui sont longues à faire ou quoi que ce soit. Fait que moi, je me suis acheté un beau gros pick-up avec ma roulotte en arrière.
Oh, fait que vous êtes un nomade!
Oui, madame, puis je vais vous dire une chose. Il n'y en a plus de chicanes, il n'y en a pas de problème. Puis regardez, ma roulotte, là, je l'ai payée en 6 mois. Qu'est-ce que j'aurais payé en loyer? Fait que les prochains 6 mois, ben là, ben, je suis...
Mais là, vous n'avez pas froid l'hiver, Alain?
Ben, pas du tout, madame. On est confortable là-dedans. Il y a le propane, il y a l'eau. Puis quand je reste sur le terrain quelques jours, ben, je remplis le réservoir d'eau. Puis le propane et tout. Ben non, mais absolument pas. C'est assez écœuré, madame. Je l'ai été propriétaire, moi, mais de maison unifamiliale. Puis j'ai fait un divorce il y a quelques années. J'ai dit terminé, c'est que maintenant, C'est la liberté que j'appelle. La liberté 63, parce que j'ai 63 ans, je suis en très bonne santé. Mm. C'est pas un propriétaire qui va me brûler mon énergie parce que j'ai trop donné à des propriétaires véreux parce que on n'en appelle pas beaucoup, mais il y en a en masse, madame. Puis des années qui s'en viennent, ça va être encore pire parce qu'aujourd'hui, c'est le paraître, l'argent. Le paraître puis l'argent.
Merci, Alain. Merci beaucoup. Il nous dit beaucoup de choses, Alain. D'abord, il s'est sorti du système. C'est ça qu'il nous dit. Évidemment, on ne peut pas tous vivre dans une roulotte à se promener comme ça d'un endroit à l'autre. Mais ce que je retiens d'Alain, c'est quand même l'écœurement par rapport à des propriétaires véreux. Puis c'est vrai, Andy Brouillette, qu'on l'entend, ça. Puis Véronique pourrait renchérir là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui sont écœurés de ça, au même titre où les propriétaires disent oui, mais il y en a des locataires aussi qui abusent. Elle est où, la vérité? Elle doit être un peu entre les deux?
Écoutez, c'est pas une question d'être propriétaire ou locataire, c'est une question d'individu. Vous avez des gens qui ont des comportements, des attitudes envers les autres qui sont absolument désagréables, et ça se vit. Là. Moi, je dis souvent, les mauvais propriétaires aujourd'hui, ils devaient pas être un cadeau lorsqu'ils étaient jeunes et locataires. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des situations, on parle des enfants, je regrette, mais dans la plupart des cas, les propriétaires habitent même pas l'immeuble. Alors qu'il y a des enfants ou non, ça ne lui change rien. Sauf que il sait qu'il va avoir des plaintes des autres locataires qui vont dire, regarde, moi, je vais m'en aller, je renouvelle pas mon bail s'il y a des enfants ici. Donc, on se retrouve avec ce problème-là. Alors que dans les années 50, 60, ben écoutez, tout le monde dans le bloc avait des enfants qui se couchaient à peu près à la même heure et qui jouaient ensemble le lendemain. Donc, c'est des situations que les propriétaires sont pris pour gérer. Mais il faut jamais oublier une chose, là. Il y a une loi de l'offre et de la demande. Il y a une offre de logement, il y a de la demande. Et lorsque les coûts augmentent, si l'offre ne peut pas suivre parce que la demande dit, donc les locataires disent, on peut pas payer ces prix-là, c'est sûr que ça amène à des correctifs. Là, actuellement, on fait face à des augmentations de coûts d'exploitation des immeubles, des augmentations faramineuses. Je parle du coût d'exploitation. Alors, si ça ne peut pas se refléter dans les loyers, ça devient non intéressant pour des propriétaires de garder les logements en mode locatif. Et quand on parle de construire, il s'en construit quand même beaucoup, mais écoutez, ça commande des loyers à 1200, 1500 $ avec les prix de construction aujourd'hui. Donc, c'est évident que là, on se retrouve avec une perte du parc de logements vieillissant et de la construction qui rend les prix moins abordables. Il faut revoir la réglementation.
Véronique. J'aimerais revenir sur les propriétaires véreux parce que quand on regarde là, ce qui se passe sur le plateau, par exemple, et dans le sud-ouest, on parle de compagnies à numéro, là, de sociétés d'investissement qui font des flips immobiliers ou qui achètent des bâtisses puis qui se débarrassent des locataires qui habitent là depuis longtemps parce que leur logement, ils savent très bien que le loyer va pouvoir être doublé et reloué facilement. Et c'est ce qui amène son lot de stratagèmes, là, rénoviction, par exemple, et autres, changement d'affectation pour du Airbnb, même dans les zones où ça ne devrait pas se produire. Donc, c'est sûr que nous, on pense qu'il y a encore énormément d'argent à faire dans l'immobilier, que c'est effectivement une raison de l'encadrer parce qu'actuellement, les locataires ne sont pas suffisamment protégés, ce qui fait en sorte que oui, il y a beaucoup d'abus, il y a des hausses abusives de loyers et comme finalement, les propriétaires ont le gros bout du bâton, les locataires finalement ne peuvent pas négocier grand-chose. Mm-hmm. Et donc, c'est sûr que les locataires qui sont chassés par ces stratagèmes de rénoviction n'ont pas nulle part où aller à un prix qu'ils peuvent se payer.
Ce que vous appelez les rénovictions, c'est-à-dire faire des rénos sous prétexte d'améliorer son logement, mais dans le fond, c'est juste une tactique pour évincer ses locataires. Mais
avez-vous un problème contre les subdivisions, les reprises pour subdivisions. On ajoute deux logements où il y en avait un.
Bien là, c'est ça aussi, c'est que c'est des stratagèmes qui sont utilisés, subdivisions, agrandissement, changement d'affectation.
Des logements au parc,
le problème, c'est qu'on va prendre un logement que les gens payaient, par exemple, peut-être 800 $ ou 900 $ puis là, peut-être 1000, puis on dit, hey, on va en faire deux, puis on va louer 1000 $ chacun. Donc, c'est encore là, les gens qui payaient peu cher se retrouvent finalement chassés par ces stratagèmes-là.
On va s'arrêter ici, très courte pause. On va revenir avec vos commentaires là-dessus. Je vais vous poser la question. Est-ce que vous avez la difficulté à vous trouver un logement abordable? Si vous habitez aujourd'hui dans un logement que vous louez depuis un moment, peut-être sur d'ailleurs un condo, est-ce que vous avez encore les moyens de vivre là? Est-ce que vous avez reçu déjà une augmentation de loyer pour la prochaine année? Avez-vous l'intention de vous repositionner par rapport à tout ça? Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Je déménage ou est-ce que je vais... J'entendais des gens ce matin qui disaient je vais peut-être quitter Montréal, je vais peut-être quitter le Québec, mais tu sais, pour aller où? Toronto, c'est beaucoup plus cher que Montréal. Vancouver, imaginez, c'est encore pire. Et quelqu'un disait, je vais aller aux États-Unis. Aux États-Unis, le dollar américain, vous venez d'avoir une augmentation immédiate de 32 % en moyenne. Il n'y a comme pas de solution facile. Je ne suis pas sûre que la fuite s'en soit une. Il vaut peut-être mieux regarder ce qu'on a ici puis comment trouver des véritables solutions. 514-790-9850. Je vous donne la parole tout de suite après.
Est-ce que vous avez la difficulté à vous trouver un logement abordable? 514-790-9850. Nancy, bonjour. Vous êtes gestionnaire d'immeubles?
Oui, à Montréal-Nord. J'ai une centaine de logements qui sont quand même très abordables. Si on calcule qu'un 3,5, un 4,5, ça tourne entre 725 et 825. Fait que moi, je vois les deux côtés de la médaille. C'est pas mes immeubles, on les entretient bien. Sauf que les locataires aussi font pas attention parce qu'on voit beaucoup d'histoires d'horreur, qu'on monte les prix puis que les gens, on met les gens dehors et tout. Mais la réalité, c'est pas comme ça. Pour mettre un locataire dehors, ça prend des mois et des mois. Même si la personne paye pas son loyer, je vous dirais que l'attente avec, pour la régie, le propriétaire perd énormément d'argent. Puis les locataires, il y en a beaucoup, je vous dirais, peut-être pas la moitié, mais un petit peu en bas de la moitié, qui prennent pas soin de leur appartement. On se ramasse avec des logements, avec des trous des murs, et puis on fait des enquêtes de crédit, puis c'est pas juste des gens défavorisés, là. Je parle en moyenne, c'est des gens... Il y a deux côtés à la médaille.
Ouais. Et ça, je pense que ce que vous dites, c'est un vrai problème aussi, Nancy, c'est qu'il y a des gens qui font vraiment pas attention, comme si on estime que c'est pas à nous. Fait qu'il s'arrange. Là. Il y a un peu cette mentalité-là, malheureusement. Merci beaucoup. On a Ali avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour. En fait, moi, je suis propriétaire d'un duplex avec ma conjointe. On fait partie de la classe moyenne.
Oui.
On a une hypothèque comme tout le monde. C'est pas comme un bien légué de succession ou quelque chose. Le vrai problème de la crise du logement présentement, c'est vraiment la régie du logement. C'est les règles de fixation du loyer de la régie du logement. Écoutez, nous, on est prêts à investir, mais on est prêt, admettons, à mettre 30 000 $ mais après, on peut juste augmenter de 15 ou 20 $ par mois. Ça marche pas. C'est pas un investissement. On pensait un immeuble à revenu, c'était un investissement, mais c'est vraiment pas le cas. C'est un gouffre financier à cause de la régie du logement. La régie du logement crée une pénurie. Comment? Parce que le monde que ça fait, les locataires que ça fait longtemps qui habitent dans le même logement, c'est sûr que le propriétaire, il peut pas augmenter de façon significative le loyer parce que ça fait longtemps qu'ils sont là. Donc, ça crée une pénurie. Le locataire, il veut pas bouger. Il veut rester dans le même logement qui paye, admettons, un 400 $ pour un 3,5. Il veut pas partir. Fait que c'est sûr que ça crée une pénurie de logement aussi, là.
Mm-hmm. Merci, merci beaucoup. Chantal, bonjour. Votre opinion là-dessus?
Oui, bon matin. Oui, moi, en fait, je suis locataire en colocation. Mm-hmm. J'habite avec ma propriétaire dans le logement où elle est. C'est un duplex ici. Mais d'ici quelques années, elle va forcément vendre et je vais devoir partir et ça me fait peur un peu parce que je regarde des fois le marché. Je suis pas capable de trouver des appartements à un prix convenable. Pourtant, je gagne un salaire qui est quand même correct. Mais j'ai pas envie de me ramasser dans un endroit et voir des coquerelles, des punaises de lit, tout ça. Mmh. Et pour avoir une qualité de logement, il faut forcément débourser beaucoup. Puis, dans un budget normal, on doit dépenser environ 30% pour ce qui est du logement. Et j'ai pas envie de devoir dépenser peut-être 50% de mon salaire sur un appartement. Et je veux pas non plus me ramasser à l'autre bout du monde. Je veux quand même demeurer à Montréal. Mais ça fait peur un peu. Je trouve pas beaucoup de choses et je veux pas nécessairement continuer en colocation.
Je comprends. Là, vous payez combien là par mois?
Ça va vraiment être... ça va faire un choc. Je paye 410 $ par mois. Ça fait 9 ans que j'habite au même endroit. C'est vraiment pas cher. Tout est inclus. Mais on sait que dès que je vais quitter, peut-être qu'un loyer incluant toutes les charges, hydro, Internet et tout ça, ça va peut-être avoisiner les 1000 $ peut-être un petit peu plus. Donc, c'est vraiment un bouleversement majeur dans un budget.
Mais je sens bien l'inquiétude, d'ailleurs. Et puis, c'est une inquiétude qui est partagée par beaucoup de monde. Il y avait un sondage l'automne dernier là, qui avait été fait au Canada, mais en particulier au Québec. Les gens le disaient aussi, c'est un stress de savoir où est-ce qu'on va finir par atterrir. Et Chantal nous le dit bien, aujourd'hui, elle est encore capable de se payer un logement parce qu'elle est en colocation, elle ne paye pas cher, mais éventuellement... Il y a cette espèce de on repousse un peu plus loin les limites. On a Frédéric qui est avec nous, qui est locataire également. Avez-vous cette inquiétude, vous aussi, Frédéric?
Non, ben justement, moi, j'appelle parce que je suis dans cette situation-là. Je déménage pour plus cher parce que je me suis fait avoir par un propriétaire. C'est l'autre côté de la médaille. Écoutez, moi, quand j'ai loué ce logement-là, il m'a dit que c'était entièrement rénové.
Ouais.
On est allé visiter. Toutes les portes d'armoire, c'était beau, c'était neuf. C'était un peu de notre faute, on n'a pas vérifié à l'intérieur. Mais il a juste changé de devanture. Ensuite, il me dit que c'est un appartement non-fumeur. Le voisin d'en bas fume du pot puis des cigarettes. Mes enfants commencent à faire de l'asthme. Puis en plus, il me dit que c'était bien isolé. On entend le voisin d'en bas ronfler et marcher. Il réveille mes enfants. Fait que là, je suis obligé de louer un logement de 300 $ plus cher. Parce que ça n'a pas de bon sens. Puis en plus, les réparations qu'ils sont venus faire, là, j'avais des fenêtres de brisées. Sont venus réparer avec des fenêtres usagées. les mécanismes ne fonctionnent plus. Je paye 900 $ là. Là, je suis obligé de m'en aller à 1200 $ ça va être du neuf, parce que je veux être certain là, que c'est non-fumeur, etc. Là, tu sais. Fait que les propriétaires, là, souvent, sont pas tellement mieux. Là. Tu sais, puis en plus, ils ont le droit, là, par la loi, ils peuvent dire qu'ils ont rénové toute la cuisine, mais ils ont juste changé les devantures, autrement dit, les portes. C'est légal. Ils ont le droit.
Ouais, merci. Merci, Frédéric. Merci beaucoup. Véronique et Hans, Véronique Lafemme, porte-parole du Frappru, je le rappelle, Hans Brouillette, qui est directeur affaires publiques de la Corpic, qui représente les propriétaires. Comment est-ce qu'on peut espérer venir à bout de cette situation-là? Parce que ça fait plusieurs fois qu'on en parle, puis on dirait que ça empire à chaque fois. Hans, là-dessus?
Ben, écoutez, on sent déjà que le gouvernement, la ministre de l'Habitation, s'intéresse à la question, donc de comment on peut planifier pour s'assurer qu'il y ait suffisamment de logements pour répondre à la demande. On offre toute notre collaboration à la ministre. Il faut d'abord s'assurer que la production de logements se fassent à coût raisonnable. Et ça, il faut revoir la réglementation, donc des logements neufs. Et d'autre part, il faut garder l'intérêt.
Mais revoir la réglementation, ça veut dire quoi?
Ben, écoutez, il y a des lois, il y a des règlements d'urbanisme qui nuisent. Il y a le fameux règlement sur la mixité de la mairesse Plante qui va certainement nuire aussi à la production.
Ça, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut un mélange de toutes sortes de monde?
C'est ça. Sinon, on doit envoyer de l'argent à la ville. Les promoteurs devront envoyer de l'argent. Donc, ça augmente le coût de production. Il y a des règles d'urbanisme. Il y a des règles aussi dans les coûts de main-d'œuvre de la construction. Il faut revoir ces règles-là pour s'assurer qu'il y ait production de logements en suffisance. Deuxièmement, il faut garder l'intérêt des petits propriétaires. On entendait tantôt Nancy et Ali. Oui, il y a des problèmes, et ce n'est pas la faute de la régie si le règlement sur la fixation de loyer nous permet d'amortir les travaux de rénovation en 32 ans. C'est vraiment un règlement qui est décidé par le gouvernement du Québec. Ça doit être revu. Airbnb, Mme Laflamme en parlait tantôt.
Valérie Plante, elle veut vraiment plus d'inspecteurs parce qu'elle aille bien ça, Airbnb.
Ben, écoutez, il faut garder les logements en mode locatif. Là, ce qui se passe, c'est que dans le cas des petits propriétaires, ils jettent la serviette, ils se disent, moi, j'ai payé très cher, je suis pas capable de rénover, il y a toutes sortes de contraintes au niveau de mes droits, et finalement, ben, je ne suis plus intéressé. Donc, il y a des logements vacants qui sont laissés vacants volontairement par des propriétaires qui veulent pas personne qui leur marche sur la tête. Vous avez des propriétaires qui convertissent en condo, qui reprennent pour leur famille. Il faut garder l'intérêt de maintenir donc.
Oui, parce qu'il y a des gens qui me disent, hey, c'est mon logement, je l'ai acheté, je l'ai pas volé à personne, c'est moi qui paye pas, je peux-tu faire ce que je veux avec? Tu sais, c'est pas fou quand même.
Mais ce que ça illustre, c'est que, en fait, le logement, ça ne peut pas être qu'un secteur d'investissement. Le logement, c'est un droit que le Québec et le Canada un droit que les gouvernements se sont engagés à respecter, un besoin essentiel. Et là, quand on regarde ce qui est offert sur le marché privé, qui est complètement déconnecté de la réalité d'une partie importante des ménages locataires, il faut faire en sorte qu'il y ait une alternative, parce que sinon, on fait face à un mur. Et cette alternative-là, pour nous, c'est du logement hors marché privé, des coopératives, des logements sans but lucratif, des HLM.
Mais ça, c'est au gouvernement à mettre ses culottes puis à le décider.
Oui, parce que c'est ces logements-là qui permettent aux gens de demeurer dans leur quartier, les locataires âgés ou même les familles actuellement à Montréal qui font face à tous les stratagèmes dont on a parlé plus tôt et qui font face à la rareté de logements locatifs quand ils sont forcés de déménager.
Mais avouez que c'est les villes et que c'est les gouvernements qui font pas assez.
Ben d'abord, le retrait du gouvernement fédéral qui a privé le Québec de 75 000 logements, c'est une cause claire de la pénurie de logements locatifs puis de logements sociaux au Québec et ailleurs au Canada, parce que les autres villes canadiennes sont également touchées.
Ça,
le
c'était
gouvernement
quand, ça,
du Québec, c'est en 93. Ouais. Le Québec a pris la relève, mais son programme Accès Logis n'est pas suffisamment financé. En 10 ans, on a laissé les choses aller, ce qui fait que ça nous a mené à un retard important. Donc, on n'a pas de plan de match, on n'a pas de vision. Et Montréal peut aussi continuer à faire davantage, augmenter ses objectifs, mais c'est certain que ça va prendre un investissement des gouvernements supérieurs et un vrai contrôle du prix des loyers, des protections suffisantes pour les locataires qui vivent avec les différentes menaces.
Mais il y a un contrôle des prix des loyers quand même au Québec.
On en a parlé, mais seulement, ce sont moins de 1% des logements qui sont fixés à la régie du logement.
Mais voyons donc, ça a un effet sur l'ensemble des locataires qui vont fuser les augmentations. Pensez-vous que tous les propriétaires vont aller en fixation?
Oui, mais les locataires,
bien sûr que non.
Oui, mais quand les taux d'inoccupation sont aussi bas que ceux qu'on voit aujourd'hui, là, est-ce que les locataires nous disent
ils restent dans le logement puis ils contestent le loyer?
Pas tous. Il y a plusieurs, notamment des locataires, des gens qui ont peur de défendre leurs droits.
Ah, mais là, c'est une question d'information.
C'est le travail. Oui, et la régie du logement, malheureusement, a abandonné son rôle d'information et d'ailleurs informe de plus en plus mal et de façon incomplète les locataires qui font face à tous ces abus-là. Donc, c'est sûr qu'il faut des meilleures protections, c'est clair, et le gouvernement du Québec doit agir.
Merci beaucoup à tous les deux. C'est sûr qu'on va en reparler dans pas long. Véronique Laflamme est porte-parole du Frappru. Hans Brouillette est directeur affaires publiques de la Corpic. On s'arrête ici tout de suite après la pause. Je reçois Jessica Barker qui va se vider le cœur, comme elle l'a fait à l'émission Format familial, parce qu'elle trouve que les grands-parents devraient faire un petit peu plus pour aider leurs jeunes avec leurs petits-enfants s'en occuper. Et elle dit, où êtes-vous quand on a besoin de vous? À tout de suite, tout le monde.